l'actualité des idées aujourd'hui, que reste-t-il de la notion de forum au quartier des Halles à Paris ? Françoise Fromoneau décortique la grande comédie de la réhabilitation urbaine, scandale, gros sous, communication et un peu d'architecture quand même. Il aura fallu 17 ans pour mener à bien ce projet coûteux qui soulève différentes questions bien au-delà de la région parisienne. De quel centre-ville voulons-nous ? Que reste-t-il des espaces publics qui ne soient pas marchands ? Mais avant cela, poussons la porte du salon d'Elisabeth et Samuel Courteau. Lorsque ce couple de grands industriels anglais du début du 20e recevait chez eux pour de somptueux réception, les invités pouvaient apercevoir de part et d'autre de la cheminée des Gauguin, des Manet ou des Cézanne. En plus de leur œil avisé, ils avaient à cœur, avec leur fondation, d'ouvrir les portes de l'art au plus grand nombre. Autre époque, autre fondation, peut-être autre projet. La collection Courteau est montrée à Louis Vuitton à Paris.
La grande table. Marie Richelieu.
Voilà, c'est au bon accueil et vous allez être notre guide dans cette soirée, Dr Karen Serre. Ce salon où les époux Courteau accrochent leurs premières acquisitions, audacieuses pour l'époque, puisque l'Angleterre est, on va dire quoi, hostile au mouvement de l'impressionnisme. Vous êtes la commissaire de cette exposition, le parti de l'impressionnisme qui réunit en ce moment et jusqu'au 17 juin à la Fondation Louis Vuitton à Paris la plus large collection britannique d'œuvres de Cézanne, de Manet, de Seurat, de Van Gogh et de Gauguin. Bonjour à vous et merci.
Merci, bonjour.
Alors, ça ressemblait à quoi ces soirées londoniennes, Karen Serre ?
Ça devait être absolument incroyable. Tout ça se passait dans une maison du XVIIIe siècle, néoclassique, par le plus grand architecte anglais, Robert Adam. Donc tout était moulure et fresque. Donc ça devait être vraiment assez insolite. Et d'ailleurs, la nièce de Samuel Courteau le dit, de voir des œuvres impressionnistes accrochées parmi des décors du XVIIIe siècle, les invités en étaient choqués, dit-elle. Donc à la fois, c'était vraiment un parti pris d'ouvrir leur maison et de donner des soirées et de rendre la collection qu'ils constituaient à partir de 1923 vraiment accessible au plus grand nombre.
Est-ce qu'on peut dire que c'était une sorte de test de leur œil dont je disais tout à l'heure qu'il était à la fois avisé et aussi, voilà, comme ça, un peu audacieux, de tester leurs tableaux en les accrochant dans le salon et voir un peu les réactions des invités de ces soirées-là?
En fait, ce qui est intéressant, c'est que ils pensaient d'abord à eux, dans le sens où ils vivaient avec ces œuvres au jour le jour, et ils disaient que c'était vraiment ça qui guidait les achats. Il fallait que les œuvres leur plaisent, tout en premier lieu. Et donc, on a beaucoup de chance à la Galerie Courteau qu'ils avaient un œil incroyable et un goût très sûr. Mais c'est surtout l'émotion que procuraient les œuvres, et cette émotion devait être renouvelée tous les jours. L'œuvre devait vraiment, sur la durée, donner un plaisir et surtout vraiment marcher, non pas sur un plan intellectuel, mais un plan émotionnel. Et c'est surtout ça qui l'intéressait. Et donc, quoi qu'en disent les autres personnes, c'est vraiment pas ça qui guidait leur choix.
Est-ce qu'on peut présenter un petit peu ce couple dont j'ai dit que c'était des industriels, début 20e ? Bon, en fait, il faut quand même revenir un tout petit peu à la fin du 19e siècle, brièvement dire qui sont Samuel et Elisabeth Courteau, avant de voir comment est-ce qu'une partie de leur vie et de leur carrière en parallèle de cette industrie a été consacrée à non seulement acheter de l'art, mais après à faire reconnaître le mouvement impressionniste, notamment dans les collections publiques. Alors, Samuel et Elisabeth, portrait.
Donc Courteau, bien sûr, vous l'avez deviné, c'est un nom français. Donc Samuel Courteau était issu d'une famille huguenote qui donc s'était réfugiée à la fin du XVIIe siècle à Londres. Sa famille venait de l'île d'Oléron et ils en étaient tout à fait conscients de cet héritage français. C'était quelque chose de très important pour eux. Et d'ailleurs, le frère de Samuel, Stephen, dont nous présentons aussi une partie de la collection des magnifiques aquarelles de Turner qui collectionnait, a écrit un livre sur l'histoire de la famille. Donc déjà un héritage français important. Ils sont d'abord orfèvre et ensuite il se tourne dans l'industrie textile et notamment la soie. Donc la famille fait fortune au 19e siècle avec ce qu'on appelait la crêpe qui était la soie qui était utilisée, la soie noire utilisée pour le deuil. Mais là où tout change pour eux, et effectivement ils deviennent vraiment des industriels très très importants, cette famille, c'est avec l'invention du viscose. Et c'est vraiment eux qui le développent. Et au début du XXe siècle, ils deviennent Courtaulds. Leur entreprise familiale devient une des plus grandes multinationales d'industrie textile au monde.
Et c'est assez concomitant ce début du XXe siècle avec le début de leur achat. Il y a une période sur 10 ans qui est une sorte de période comme ça où ils achètent avec beaucoup de ferveur. Mais le tout début, le moment où ils se mettent à acheter des tableaux d'art, c'est à quelle période, Karen Serre?
Donc là, le premier achat est en 1922 et effectivement Samuel Courtauld devient président de l'entreprise en 1921. Donc c'est sûr qu'il y a un lien entre ces deux faits. Mais ça faisait peut-être 5 ou 6 ans qu'il visitait des expositions et qu'il s'intéressait énormément à l'art impressionniste. Mais l'art plus général, vraiment depuis le début du XXe siècle, il parcourait les musées tous les deux, Samuel et Elisabeth, dans toute l'Europe. Donc ce premier achat s'effectue en 1922 et c'est Elisabeth toute seule qui le fait en entrant un jour dans une galerie à Londres et en se retrouvant face à face avec un Renoir. Femme lassant sa chaussure qui est présente dans l'exposition. Elle l'achète et elle envoie son mari dans cette galerie. Et petit à petit, ils se prennent de ce goût. Et effectivement, tous leurs achats, la majorité de leurs achats seront effectués entre 1923 et 1929, date à laquelle Elisabeth tombe malade d'un cancer dont elle mourra 2 ans plus tard. Donc c'est vraiment une période extrêmement restreinte. Et pendant ces quelques années-là, ils achètent environ 80 toiles majeures, en plus de sculptures, dessins, estampes.
On sent bien à vous entendre, Karen Serre, et aussi à parcourir l'exposition en ce moment à la Fondation Louis Vuitton, que quand on présente une exposition, on ne peut pas se défaire de l'aspect biographique des collectionneurs et qu'il a fallu, j'imagine, pour vous et pour toutes les personnes qui ont travaillé sur cette exposition, se plonger dans une sorte de parcours biographique, d'une certaine manière, pour comprendre l'œil de ces deux personnes-là.
Tout à fait. Et je dois avouer que cette exposition a été l'occasion pour nous de redécouvrir notre fondateur, parce que donc je suis conservateur à la Galerie Courtauld de Londres, et donc c'est là où se trouve aujourd'hui la collection de ce couple. Et donc ça a été vraiment quelque chose de très très intéressant pour nous d'essayer de comprendre vraiment plus en détail ce qui avait motivé leur achat. Et comment la collection s'était constituée.
À partir de quel document, par exemple, vous avez travaillé?
Par exemple, on a redécouvert dans nos archives quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui était quelques souvenirs qu'avait écrit la sœur de Samuel Courtauld à propos de leur enfance, qui dévoilait quand même pas mal de choses à propos de son caractère. Elle disait qu'elle ne comprenait pas très bien d'où venait son goût. Elle disait son goût indépendant était vraiment le sien et ne venait de personne d'autre. Elle-même était fascinée en fait par le fait que son frère ait constitué cette collection.
Et peut-être disait aussi des choses de leur éducation égalitaire, puisqu'on parcourait rapidement l'aspect biographique de la famille Courtauld, mais c'est quelque chose qui est assez peut-être important dans la formation de son goût et de son œil à cet homme-là, c'est qu'il a été élevé avec ses frères, avec sa sœur, d'une manière plutôt assez ouverte finalement pour l'époque.
Très ouverte. Et effectivement, dans son mémoire, sa sœur dit qu'ils ont eu une enfance victorienne très traditionnelle, à la différence qu'ils se sentaient profondément rattachés à la France de par leur héritage et aussi un tout petit peu marginaux de par leur foi, qui était donc une foi unitarienne, qui est une forme du protestantisme qui en fait ne reconnaît pas la Trinité et donc qui est un côté très très pratique, disons. Il y a pas de hiérarchie, enfin il y a un côté beaucoup plus tourné vers l'aspect social. Et effectivement, les parents de Samuel étaient très engagés dans l'éducation, dans les hôpitaux, dans la philanthropie en général, pas vraiment dans l'art.
Est-ce qu'on peut voir, dans, sans faire de raccourcis biographiques, mais est-ce qu'on peut voir dans cette position peut-être éventuellement minoritaire et une éducation très ouverte, la possibilité ensuite, quelques années plus tard, d'avoir un œil aguerri, de pouvoir détecter le génie de Seurat, de Manet, de Gauguin, et de se sentir libre d'acheter ça au milieu d'une Angleterre qui rejette complètement l'impressionnisme?
Oui, tout
comme
à fait.
Comme une forme de goût pour la liberté, d'une certaine manière.
Oui, je pense que c'est Samuel Courtois ne vous contredirait pas. Je pense que ce côté de se sentir à la fois, bien sûr, tout à fait ancré dans la société, mais aussi marginal, c'est tout à fait ce qui était le cas de l'impressionnisme au début du XXe siècle. Ce n'est pas comme si Samuel Courtois avait complètement découvert l'impressionnisme. Les artistes impressionnistes voyageaient à Londres depuis les années 1870, mais c'est les institutions britanniques, l'establishment, qui rejetaient ce mouvement, qui n'étaient pas sûrs que c'était un mouvement qui allait durer, qui était vraiment intéressant. Alors que quand même, des critiques et des collectionneurs privés en Angleterre s'intéressaient. Mais personne, à la fois au niveau de Samuel Courtois et avec sa détermination et surtout son engagement public.
Et ce sera l'un de ses combats. On va écouter Andrew Carnegie dans une archive de 1914.
The man of wealth, thus becoming the mere trustee and agent for his poorer brethren.
L'homme riche doit devenir le meilleur pour ses frères, mettant à leur service sa sagesse supérieure, son expérience et son habilité à administrer. Par charité collective, son devoir d'homme est d'aider celui qui s'aide lui-même. D'épauler celui qui en a besoin. De soutenir celui qui veut aller plus haut et qui en a les moyens.
Je le disais, la voix donc d'Andrew Carnegie dans cette archive de 1914. Pour rappel, c'est un industriel et aussi philanthrope écossais, et il parle de la place de l'homme riche et de la possibilité que, et du devoir et de la responsabilité qu'il a de partager avec les plus pauvres. On l'a abordé brièvement, Karen Serre, mais quelle a été justement cette part-là dans le parcours de ce couple de collectionneurs Courtois?
Ils avaient vraiment un sens du devoir public très très poussé, en fait, mais je pense qu'ils rejetteraient complètement le côté dans le discours d'Andrew Carnegie de que l'homme riche sait mieux que les autres ce que le peuple veut. Lui, au contraire, il pensait que cet art l'avait touché profondément au niveau émotionnel, et que si lui, qui n'avait aucune formation artistique, il n'avait jamais été à l'université, il est tout de suite entré dans l'entreprise familiale, si lui, cet art le touchait, l'impressionnisme est après tout un art très très immédiat, qui parle de la vie quotidienne, et avec un style très très enlevé, donc très différent de l'art académique. Si lui, ce mouvement le touchait, donc il pouvait être accessible à tous. Et donc c'est pour ça qu'il pensait que c'était vraiment très important que beaucoup de personnes aient accès. Mais il ne voulait pas, bien sûr, l'imposer. Mais il pensait que ça pourrait vraiment enrichir la vie des spectateurs.
Et alors, ça passait par quoi? Parce qu'on a parlé, bon, de ces soirées qui étaient quand même, j'imagine, des soirées mondaines où tout le peuple ne se retrouvait pas dans le salon des Courtois en plein milieu de Londres. Donc, comment faisait-il profiter à la population de leurs acquisitions?
Donc deux moyens. Le premier est que en fait ils prêtaient énormément de leur collection, et on a quelques lettres de Samuel Courtois qui dit ça a été très dur de laisser partir par exemple la loge de Renoir, mais je sais que c'est pour une bonne cause. Elle s'est retrouvée dans le Lancashire, dans une ville qui n'avait pas de galerie d'art, et donc il l'a prêtée pour quelques mois là-bas par exemple. Et Elisabeth Courtois disait aussi que en plaisantant que un des désavantages de vivre dans un musée, comme elle l'appelait, c'était que tous les jours, en fait, ils avaient des visiteurs qui venaient voir leur art. Mais donc ça, c'est pour la collection privée. Mais ce qu'on ne sait moins, c'est que exactement au même moment où ils commençaient à collectionner, en 1923, ils ont aussi donné une très forte somme à la National Gallery de Londres, pour qu'ils commencent à acheter des œuvres impressionnistes. Il y en avait quelques-unes, mais très très peu.
Fallait-il qu'ils soient quand même intimement convaincus de la nécessité de montrer cet art-là ? C'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent à la National Gallery pour qu'ils achètent des tableaux impressionnistes.
Tout à fait. Et donc c'est vrai que là, par contre, c'est un acte militant assez fort, parce qu'il imposait pratiquement cet art à l'establishment britannique. Et non seulement il a donc donné 50 000 livres, une très très grosse somme à l'époque, mais il s'est aussi mis président du comité d'acquisition pour être sûr que les œuvres achetées seraient vraiment d'excellente qualité. Et il s'est complètement lancé dans ce projet d'achat. Et donc, pendant les prochaines années, il a visité Aix-en-Provence sur les traces de Cézanne. Il a été voir la belle-sœur de Van Gogh à Amsterdam. Et donc, aujourd'hui, si les tournesols de Van Gogh, si une baignade à Asnières de Seurat se trouvent à la National Gallery, qui sont vraiment les œuvres les plus populaires et les plus connues, c'est grâce à lui. C'est lui qui les a choisies.
Grâce à lui ou à eux?
Là, par contre, c'est vraiment lui. Elisabeth était beaucoup plus impliquée dans la collection privée, mais c'est Samuel Courtauld qui, à la tête de ce comité, avec quelques autres collectionneurs et dirigeants, ont choisi ses œuvres publiques.
Alors, avant qu'on parle un peu plus, mais trop brièvement, de peinture avec vous, Karen Serre, dans les coulisses de cette exposition qui a lieu en ce moment à Louis Vuitton, on jouit de la même générosité. Ça se passe comment? C'est la collection Courtauld à Londres qui prête à Louis Vuitton. Comment ça se fonctionne d'exposer autant de tableaux de maîtres dans deux villes différentes, dans un contexte un peu particulier en plus? C'est intéressant.
Pour nous, c'est vraiment une occasion fascinante et unique qui ne se reproduira pas de sitôt.
Parce que ça se déplace difficilement.
L'autoportrait à l'oreille bandée de Van Gogh, on ne l'avait pas prêté depuis 1955. Et quand ça retournera à Londres, on ne le prêtera plus. Mais pour nous, c'était vraiment l'occasion de faire revenir cette collection dans son intégralité. Donc c'est vraiment toutes les œuvres que Samuel avait dans sa collection, de les faire revenir à Paris. Et aussi,
revenir, juste précision pour nos auditrices et nos auditeurs, parce qu'il y a eu une précédente visite de la collection Courtauld en France.
Oui, tout à fait.
Du coup, aux années 50.
En 1955, exactement. Mais je voulais aussi dire revenir dans le sens où c'est là que la plupart des œuvres ont été peintes et achetées par Samuel Courtauld dans les années 20. Donc, l'autre chose qui est vraiment intéressante, c'est que Samuel Courtauld a donné donc la majorité de sa collection pour fonder la galerie et l'Institut Courtauld, mais il a aussi donné des œuvres à des amis, à de la famille, et ces œuvres-là sont aujourd'hui complètement dispersées dans des collections privées, dans des musées internationaux, et donc très généreusement, ces œuvres ont été prêtées, et une quinzaine d'œuvres donc sont donc revenues avec les œuvres de la galerie Courtauld. Donc ça permet vraiment d'avoir un ensemble complet de les œuvres avec lesquelles ce couple vivait. Et j'avoue que moi-même, j'avais jamais vu cet ensemble, et c'est tout à fait incroyable.
Et ce qui permet aussi, par le commissariat et l'organisation de cette exposition, de faire une traversée d'un moment de l'histoire de l'art qui est assez saisissant, puisque de salle en salle, bien sûr, on suit les acquisitions de ce couple Courtauld, mais par ailleurs, on suit aussi l'histoire de l'art en train de se peindre, et c'est assez fou.
France Culture, La Grande Table, Marie Richeux.
Cette totalité qu'assume Seurat est telle qu'il va représenter les deux aspects de l'impressionnisme. Ce sont vraiment deux impressionnismes différents qui sont mus tous deux par une même volonté de faire de la peinture l'enregistrement du vrai dont l'homme est témoin, mais qui ont encore un autre lien. Ce lien, c'est de chercher l'intensité de vivre. Et peut-être que c'est la raison d'être la plus profonde de l'impressionnisme, car les peintres comme Manet, comme Degas, plus tard Lautrec, cherchent l'intensité de la vie dans cette ardeur brûlante et un peu stérile de la fin de siècle. Il la cherche dans la vie urbaine, dans cette vie qui se consume comme la flamme des lampes à gaz innovées à la même époque. Et ce sera aussi bien le bar des Folies Bergères de Manet, par exemple, que les ballets de Degas ou le Moulin Rouge de Lautrec. C'est une vie qui brûle, qui se consume dans la fête de la fin de siècle, et ils en sont les témoins. Et les seconds, au contraire, se tournent vers la nature, et ils cherchent dans la nature aussi l'intensité. L'intensité, pour eux, elle est dans la lumière. Elle est cette énergie lumineuse dont ils se font les chantres, ne se rendant pas compte eux-mêmes, peut-être, de la profondeur de leur démarche qui traduit le principe le plus neuf qui apparaît avec la vie moderne, à savoir cette intronisation partout de l'énergie comme principe fondamental. Et alors ils cherchent dans l'intensité vibrante de la lumière, traduite par la couleur, et ses vibrations, ils cherchent une autre forme de l'intensité.
C'est une archive tout à fait vibrante, elle aussi, avec un René Huyghe animé et qui parle du peintre Seurat. On est en 1961 dans l'émission « Comment regarder la peinture ?» Chercher l'intensité de la vie, finalement, Karen Sen, on peut en revenir à ce qu'on disait de la biographie de ce couple-là, de cette période si courte où ils sont en train d'acquérir des tableaux très importants et qui se conclut par la mort d'Elisabeth Courtauld. Pourquoi est-ce que c'est... À quoi cela met fin, cette mort, en dehors de la vie de cette femme, et c'est le début de quoi, par ailleurs ?
Donc, c'est vrai que les acquisitions ont été pour eux vraiment une façon eux-mêmes de s'éduquer sur ce mouvement. Comme j'ai dit, ils allaient visiter des expositions, des marchands, et vraiment ils achetaient ce qui leur parlait. Mais c'est vrai que en montant l'exposition, et donc l'exposition est groupée non pas par date d'acquisition, mais par artiste, en fait, dans un ordre vaguement chronologique. Et on s'est rendu compte que c'est absolument incroyable ce qu'ils ont réussi à faire en très peu de temps, qui est de faire une histoire de l'impressionnisme, vraiment, de ses débuts avec Manet jusqu'à Gauguin. Et sera. Et toutes les icônes, toutes les œuvres qu'on voit dans les livres pour raconter l'impressionnisme sont présentes. Et donc, c'était pas du tout quelque chose de réfléchi de leur part, mais au final, en très peu de temps, et vraiment avec guidés par cet instinct, ils ont réussi à faire une histoire d'impressionnisme dans leur salon et qui est traduit donc dans l'exposition.
Alors leur instinct, mais pas que, ils s'entourent, hein, et dans les écrits qui et le catalogue, je le mentionnais tout à l'heure, mais plein de hors-séries qui vont certainement publier en librairie. On voit aussi apparaître comment on pourrait les dire, des sortes de conseils, Karen Sarr, la figure de Roger Fry, plein de gens qui vont quoi les aider, ces couples Courtauld, ou c'est trop gros de dire ça?
Je pense qu'effectivement, c'était un dialogue permanent avec des critiques d'art, donc tels Roger Fry, ou des marchands comme Percy Mortimer, qui a joué un rôle très très important. Donc bien sûr, il n'existait pas dans le vide, et au contraire, c'était ça qui était intéressant dans les années 20 en Angleterre. C'était très très vibrant en Angleterre et dans toute l'Europe, en fait, parce que c'est vrai qu'ils voyageaient énormément. Mais de dire que leurs achats ont été guidés par d'autres personnes, je pense que ça serait aller trop loin. Donc par exemple, Roger Fry, qui a joué un rôle très très important dans la découverte de Seurat en Angleterre, et de Cézanne, en fait, qui était le peintre préféré de Samuel Courtauld.
Le choc, même. Hein,
oui, oui, dire. Tout à fait, le choc de Cézanne. Dans la correspondance qu'il échange donc avec Courtauld, il lui dit il faut absolument que vous achetiez ce tableau ou tel tableau, et Courtauld dit non, je ne peux pas vivre avec, ça ne me parle pas. Mais après, Roger Fry lui répond ah oui, vous avez peut-être raison, c'est peut-être pas son meilleur tableau. Donc c'est un échange constant. Ils étaient très très ouverts, mais on peut pas dire qu'ils étaient guidés de façon très forcée, disons.
Karen Sarr, en accrochant tous ces tableaux à la Fondation Louis Vuitton à Paris, vous disiez, j'ai finalement presque redécouvert et puis vu pour la première fois l'entièreté de cette collection. Est-ce qu'il y a un tableau que vous avez regardé avec un nouvel œil au milieu de tout ça ?
Je pense que pour moi, ça a été la salle des Seurats, effectivement. Et d'en voir autant ensemble, ça a été tout à fait fascinant. C'est vrai qu'il, comme il est mort très très jeune, à 31 ans, ce peintre n'est pas aussi connu qu'il devrait l'être. Mais en fait, les œuvres que Samuel Courtauld a achetées permettent de vraiment suivre son évolution en très peu d'années. Et donc, de les accrocher tous ensemble et dans ce lieu, en fait, a été pour moi une révélation.
Est-ce que vous donneriez un petit conseil aux spectatrices, aux visiteurs, aux visiteuses de la Fondation Louis Vuitton pour se faufiler au milieu du public très nombreux, parce que c'est peut-être voilà la rançon du succès. On n'a pas un accès extraordinairement proche, sauf à quoi? À attendre. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux visiteurs et aux visiteuses pour pouvoir profiter pleinement de la peinture, Karen Serre?
Ce qui a été très important pour nous, et c'est la première chose qu'on a dit lors de nos réunions, c'était que l'accès aux œuvres devait être immédiat. Et donc, je dirais à la suite de Samuel Courtauld, de choisir l'œuvre qui vous parle de façon instinctive. Donc, il n'y a pas de parcours défini. Il faut juste aller vers quelque chose qui nous intéresse et qui nous parle.
Et si un peu de monde, on attend.
Voilà, exactement.
Et on profite de la peinture. Un très grand merci à vous, Karen Serre. Donc, en ce moment, à la Fondation Louis Vuitton à Paris, on peut voir cette exposition qui s'appelle Le Parti pris de l'impressionnisme. On va citer quand même ce gros catalogue, la collection Courtauld, Le Parti de l'impressionnisme. Mais vous avez pris un parti très pédagogique, on peut dire, Karen Serre, pour ce catalogue, où vraiment chacun des peintres est abordé avec précision. Je citais les compléments, comme on appelle ça, les hors-séries. On peut par exemple citer celui des Beaux-Arts, la collection Courtauld, le parti de l'impressionnisme. J'imagine qu'il y en a d'autres en librairie. Merci beaucoup,
Karen Serre. Merci infiniment.